Vas-y, stop.
Ah,
métro.
Pique ton cœur, Caroline.
Bonjour à tous et bienvenue dans Anti-Histoamétropique, votre émission d'histoire locale ou lointaine sur Radio Vassivière. Alors aujourd'hui, on va faire un petit retour au Moyen-Âge pour nous intéresser à un thème qui est toujours d'actualité. Les personnes âgées qui détiennent le pouvoir. Je dois bien vous avouer que cette idée d'épisode m'est venue à la suite des récents événements en Algérie avec la candidature pour un nouveau mandat du président Bouteflika. Est d'une phrase prononcée par mon cher voisin alors que nous marchions dans le bourg de Jalèche en Creuse. On parlait justement de ces gens qui ne veulent en aucun cas passer la main et des autres personnes que l'on juge indispensables. Comment faire une fois qu'ils sont partis ? Le général de Gaulle lui-même se jugeait indispensable et ne voyait personne de sa stature pour le remplacer. C'est ainsi qu'il mit en place l'élection présidentielle au suffrage universel direct à deux tours. Il le fit après s'être rendu compte qu'il n'était pas immortel lors de la tentative d'assassinat perpétrée par des militants de l'OAS, ou Organisation Armée Secrète, groupe terroriste luttant pour le maintien de l'Algérie française. En effet, il estimait que si personne ne lui était digne de lui succéder, c'était au peuple français d'en décider. Toujours est-il qu'à ce moment-là, nous passions, mon voisin et moi, devant un cimetière. Et mon voisin lâcha « Tiens !» Le voilà justement le carré des dispensables et des indispensables. Que c'était vrai. De Gaulle est mort, mais la France a survécu. Nos parents, grands-parents, qui sont pour nous des boussoles indispensables à notre construction personnelle, ben eux aussi, ils disparaissent. La roue continue de tourner inexorablement. Nous allons donc parler de la gérontocratie, ce régime politique où le pouvoir est exercé par les personnes les plus âgées de la société, car jugées plus sages. On appelait ces hommes les gérontes. Un régime peut être une gérontocratie de fait. C'est le cas en ce qui concerne l'Union soviétique entre 1964 et 1985, sous les mandats de Léonid Brejnev, Louis Andropov et Konstantin Tchernenko, où seuls des dirigeants septuagénaires exerçaient le pouvoir politique. Mais cela peut aussi être un choix, comme à Sparte durant l'Antiquité, ou encore le Vatican aujourd'hui. On a aussi l'image de peuples germains ou barbares, alors qu'en réalité ces derniers étaient la plupart du temps gouvernés par des chefs militaires ou des familles. Si on prend le cas des Gaulois, leur organisation n'était pas loin de celle des cités grecques ou de l'Empire romain. C'est dans ces modèles justement que l'on peut voir la pratique de la gérontocratie, notamment avec la présence d'une assemblée de sages. La sagesse étant longtemps l'apanage des anciens. Aujourd'hui, Saez résume bien la situation en rappelant que nous sommes en fait soit jeunes et cons, soit vieux et fous. Bref, pour revenir à notre gérontocratie, on doit aussi nous regarder le nombril, car la France n'est pas en reste. Notre régime est la 5ème République. Cette dernière dispose d'un parlement bicaméral, c'est-à-dire à deux chambres. D'un côté, l'Assemblée nationale, où siègent les députés, qui sont élus au suffrage direct, par des citoyens, et de l'autre, le Sénat où siègent les sénateurs élus au suffrage indirect. L'une représente la légitimité du peuple, et l'autre, à votre avis, qu'est-ce que peut bien représenter une assemblée élue par des élus ? Car c'est ce que veut dire suffrage indirect. Dans les textes, elle était censée représenter les localités, le pouvoir décentralisé de l'État, c'est-à-dire les maires, départements, régions. Son objectif est donc louable, mais cette chambre cristallise les critiques envers le parlementarisme moderne. Pour de nombreux citoyens, le Sénat est peuplé de vieux sans réelle utilité. Le Sénat serait donc une forme de gérontocratie, mais cette fois-ci plus de complaisance que de réel lieu de pouvoir. Sachez que c'est faux. Je ne veux pas passer pour le défenseur des institutions, mais il existe de nombreux contre-exemples. Il n'y a pas que des vieux. Si vieux il y a, c'était aussi le cas dans les autres cercles du pouvoir. Regardez l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, longtemps maire de Lyon mais aussi député. Au Sénat, on peut donner comme exemple de jeunesse le sénateur creusois Éric Jeansannetas. Enfin, le Sénat vote les lois. Et même si l'Assemblée nationale a toujours le dernier mot, ces modifications au texte sont prises en compte. Sans compter que les sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel et donc remettre en cause certaines lois.
Où et quand viendra-t-elle ? Et comment sera-t-elle ? En robe de velours ou vêtue de dentelle, chargée de nostalgie ou porteuse d'ivresse, la vieillesse. Deviendrai-je un vieux singe, un vieux fou, un vieux con, mandarin sclérosé, radoteur ou bougon, où m'accordera-t-elle un peu de sa sagesse, la vieillesse? Viendra-t-elle comme une amie, comme une dame aux cheveux blancs, à l'air paisible et souriant, qui viendrait partager mes nuits, ou comme l'ultime adversaire, celle qui reste à vaincre encore, avant de rencontrer la mort et de s'endormir sous la terre? Où et quand viendra-t-elle? Et comment sera-t-elle? En robe de velours ou vêtue de dentelle, chargée de nostalgie ou porteuse d'ivresse, la vieillesse? Fera-t-elle de moi un sinistre dévot, préoccupé de Dieu beaucoup plus qu'il le faut, ou me donnera-t-elle droit à la paresse, la vieillesse? Serais-je comme un arbre sec qui semble défier le temps et qui supporte bravement et coups de hache et coups de bec, ou le vieux beau qui vieillit mal et regarde avec inquiétude son beau crâne qui se dénude et ses dents qui se font la malle? Où et quand viendra-t-elle? Et comment sera-t-elle? En robe de velours ou vêtue de dentelle, chargée de nostalgie ou porteuse d'ivresse, la vieillesse? Mais je sais qu'il est tard. Je veux être un vieil homme sans être un vieillard, et vivre chaque instant, tout le temps que me laisse la jeunesse.
Bref, il est temps de revenir à nos moutons et de faire un peu d'histoire. Alors aujourd'hui, car ma situation n'a toujours pas changé, je passe le concours et je ne peux pas rédiger comme il se doit un épisode. Je vais vous lire un article de Sébastien Mazou, le 5 février 2019, « Quand les vieux gouvernaient » du site actuel Moyen-Âge. L'automne dernier, Bernie Sanders a été reconduit pour un troisième mandat de sénateur de l'État de Vermont. Malgré ses 77 ans, Sanders représente un candidat potentiel pour les élections présidentielles américaines de 2020. Son âge avancé ne semble pas lui porter préjudice puisqu'il suscite surtout l'engouement de la jeunesse. On retrouve une situation similaire chez deux autres vétérans de la gauche radicale, l'anglais Jeremy Corbyn, 69 ans, et le français Jean-Luc Mélenchon, 67 ans, qui ont réalisé certains de leurs meilleurs scores auprès des électeurs les plus jeunes lors des derniers scrutins nationaux de leurs pays respectifs. Face à ce curieux paradoxe, se tourner vers le passé permet de réfléchir à la question de l'âge en politique. Historiquement, l'ancienneté n'a pas toujours été un handicap, et y a pu être une condition sine qua non de l'entrée en politique. C'est ce que l'on appelle une gérontocratie, et ce fut le cas de Venise à la Renaissance. Les doges plus vieux que les papes. En 1519, dans une Europe où l'âge médian des souverains européens est de 33 ans, le doge ou prince de Venise, Leonardo Loredan, fait figure d'ancêtre de haut de ses 83 ans. La comparaison est encore plus frappante si l'on met Venise en miroir avec Rome, entre 1400 et 1600. Les doges sont élus en moyenne à 73 ans, soit à un âge où les papes sont déjà décédés. Ils sont élus vers 54 ans et meurent autour de 64 ans. En 1501, le rival malheureux de Leonardo Loredan, Antonio Trant, est jugé trop jeune pour accéder à la magistrature suprême malgré ses 60 ans. À Venise, seuls les praticiens, les membres de l'élite dirigeante, peuvent voter et être élus. L'entrée en politique se fait à partir de 25 ans, mais les possibilités demeurent limitées pendant longtemps. S'il faut officiellement avoir 32 ans pour entrer au Sénat, la plus importante assemblée de la République, la majorité des sénateurs ont plus de 50 ans. Les valeurs promues au sein du patriarcat, comme la sagesse ou la prudence, sont considérées comme davantage propres aux hommes mûrs, tandis que la jeunesse serait source de corruption, d'agitation et d'incompétence. La gérontocratie se trouve même dans la flotte de guerre. La puissance flotte de guerre de la République n'échappe pas à cette règle. Dans la seconde moitié du XVe siècle, ses amiraux sont élus en moyenne à 63 ans. Le doyen remporte le scrutin à 84 ans. Or, les campagnes en mer durent souvent plusieurs années et la vie à bord des navires n'est pas de tout repos. On ne s'étonnera donc pas des nombreux décès en cours de charge. La moitié des amiraux, appointés pendant la seconde moitié du XVe siècle, meurent de maladie ou d'épuisement, mais aucun au combat. Le choix de désigner des hommes âgés perturbe le commandement de la flotte vénitienne et explique en partie ses défaites face aux Ottomans au cours de la Renaissance. Mais il faut voir aussi la gérontocratie comme une garantie contre la tyrannie. La seconde explication, donc tout aussi politique, peut être avancée. Un amiral victorieux pourrait se laisser glisser et tenter d'imposer un pouvoir personnel à son retour à Venise. Les praticiens vénitiens de la Renaissance ont appris de culture antique et connaissent tous l'exemple de Jules César. L'âge avancé de leur amiraux offre alors la grande garantie contre une dérive tyrannique. De fait, certains sont élus doges en récompense de leur fait d'armes, mais ne vivent pas assez longtemps pour comploter contre les institutions républicaines. En 1577, Sebastiano Venier devient doge 6 ans après avoir remporté la bataille de Lépante sur les Ottomans. Il a alors 80 ans et meurt 9 mois plus tard. Un siècle plus tôt, en 1474, Pietro Mocenigo avait lui aussi atteint la magistrature suprême après 4 années passées à la tête de la flotte vénitienne. Il décède d'une maladie contractée pendant la campagne en mer au bout de 13 mois à l'âge de 70 ans. Mais les jeunes donc s'impatientent. Que pensent les jeunes praticiens de l'idée d'attendre plusieurs décennies avant d'accéder aux magistratures les plus importantes ? La majorité se soumet aux règles du jeu, sans doute de mauvais cœur. Mais certains refusent de patienter et usent de stratagèmes. Et oui, l'argent déjà. Pour brûler donc les étapes, en 1423, Francesco Foscari réussit à se faire élire doge à seulement 50 ans. Ses contemporains attribuent justement son tempérament belliqueux à son jeune âge. L'exemple vénitien montre comme l'ancienneté a parfois été la norme en politique au cours de l'histoire. Notre époque favorise davantage la jeunesse et on imagine difficilement un politicien mettant en avant son âge avancé pour séduire les électeurs. Néanmoins, les exemples de Bernie Sanders, Jeremy Corbyn et Jean-Luc Mélenchon montrent que les jeunes ne sont pas encore totalement les maîtres de l'arène politique. Comme l'a dit un ancien Premier ministre français, en politique, on n'est jamais fini. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des sujets, des recherches sur l'histoire locale ou lointaine, ou des remarques positives ou négatives, n'hésitez pas à me contacter à martin@radiovassivière.com et je me ferai un plaisir de vous répondre et de faire, pourquoi pas, un sujet sur ce thème. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et à dans 2 semaines. Pour revoir l'article Actuel Moyen-Âge, allez sur actuelmoyenage.wordpress.com. Au revoir.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de rêve, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là. Le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère, cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.